Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, sur votre radio, et c'est votre Libre Antenne qui débute et qui vous accompagne ce soir jusqu'à 1h du matin, 23h30 sur Europe 1, football oblige, belle soirée sur Europe 1, belle soirée de football avec tous nos invités, tous nos spécialistes, et merveilleusement animé par Lionel Rousseau. Alors chers amis, même si nous prenons avec une petite heure de décalage, j'espère que vous êtes bien confortablement installé chez vous et que vous vous apprêtez à vivre cette petite heure et demie en notre compagnie. N'hésitez pas à nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, à nous envoyer vos messages au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres... Ah, excusez-moi, j'ai un petit chat, écrit en lettres majuscules avec un tiré. Et puis, bien évidemment, notre mail libreantenne@europe1.fr. Voilà, cette Libre Antenne du mercredi, c'est parti.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et vous voyez comme cette Libre Antenne est bien partie, nous sommes mardi, nous ne sommes pas mercredi. C'est dingue, hein, je suis Jean-Baptiste, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Alors Jean-Baptiste, merci de nous accorder du temps encore ce soir, parce que, voilà, je récapitule, hier soir nous sommes parlé, on avait commencé à échanger ensemble, et puis il ne nous restait pas assez de temps, et donc je vous ai proposé de continuer cette discussion. Donc je résume, hein, notre échange d'hier soir, vous m'avez appelé pour me parler de votre liaison amoureuse, en tout cas de votre compagne, future femme, puisque vous prévoyez de vous marier dans quelques mois. Votre femme est actuellement enceinte. Vous avez fait, vous m'avez raconté une enfance et une adolescence pas mal perturbée, avec un père qui vous imposait une relation assez toxique, puisque vous faisiez part d'une fratrie qui avait plutôt bien réussi dans les études, dans la vie. Et puis vous, vilain petit canard, à qui on avait fait remarquer plus d'une fois qu'il était à la traîne, ce qui vous avait pas mal impacté, puisque vous avez plongé dans la toxicomanie, hein, dans le cannabis et dans l'alcool, pendant pas mal de temps, puisque cela fait 3 ans. Que vous avez maintenant décroché. D'ailleurs, je vous en félicite, parce que c'est un long chemin tortueux, et il est souvent difficile de vaincre ces addictions. Donc, pour cela, vous pouvez être fier. Et puis, nous en sommes arrivés au cœur de la discussion à ce qui vous embête en ce moment. Ce sont des disputes répétées avec votre future femme et cette habitude que vous avez de lui faire certaines réflexions, notamment sur la manière dont elle s'habille. Donc, nous en étions restés là. Je vous avais dit que c'était un peu curieux, hein, de faire ce type de réflexion. Vous en conveniez. Mais on en était restés là. Et j'aimerais bien qu'on continue ça, parce que vous avez eu le temps, je pense, d'y réfléchir depuis hier soir.
Oui.
Et donc, à quoi vous rattachez cette attitude que vous avez avec elle, et pour que je comprenne bien et que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, ces réflexions, en fait, sur ses habits, sur la manière dont elle s'habille, elles provoquent quoi chez vous exactement ?
Alors, effectivement, merci déjà pour le beau résumé, Alors, concernant ces réflexions que je peux faire, bon, ça peut être les vêtements, ça peut me mettre d'autres choses par moment. Et je crois que c'est clairement lié aux réflexions que faisait mon propre père, en fait, hein, à ma mère et à moi.
Oui. Qui était de quel ordre, en fait ? Qui était de quel ordre ? Aussi sur votre tenue ?
Alors, pas sur ma tenue à moi, ça c'était plutôt pour ma mère, à la limite. Qui était. Voilà, moi c'était d'autres choses. Mais après, je ne veux pas faire passer mon père pour quelqu'un d'horrible, parce que ce n'était pas le cas. Il avait pas, il avait ses limites, comme on en a tous. Hein. Mais voilà, je crois tout simplement que je reproduis des choses un peu mécaniquement, un peu bêtement, même complètement bêtement. Je dirais ça. Voilà, je dirais tout simplement ça, en fait.
C'est l'éducation, finalement, que vous avez reçue, qui est ressurgie ?
Ouais. Ouais, ouais. Je pense, en plus... Bon, j'ai perdu mon père là, très soudainement. Ça a été un gros choc parce que c'est un accident. Il s'est noyé à 6 mois, vous voyez. Donc d'autant plus, il y a beaucoup de choses qui remontent, voilà, hein, pour moi en ce moment. J'ai pas eu le temps de tout lui dire, même si on parlait quand même beaucoup. Je pense que lui non plus. Et voilà, et je me rends bien compte que, voilà, en tout cas, que je suis en train de reproduire certaines choses. Et c'est, alors parfois, on sait bien dans l'éducation où on reproduit, on va à l'opposé. Bah, sur certaines choses, je suis à l'opposé, mais sur certaines autres, je reproduis. Et c'est un peu plus fort que moi, je dirais. Voilà.
Lorsque vous dites que vous n'avez pas eu le temps de tout lui dire, vous pensez que là, vous étiez l'un et l'autre. À un moment de vos vies respectives où vous alliez pouvoir échanger, parce que finalement il est parti soudainement, votre père.
Ouais. Ben, je pense que on avait encore des choses à se dire, en tout cas. Voilà, ouais, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Ouais. Mais on avait encore des choses à se dire. Moi, j'ai évolué dans ma vie. J'ai rencontré ma compagne avec qui je suis bien et on construit quelque chose. Là, elle est enceinte. Voilà, je pense que ça aurait ouvert peut-être d'autres perspectives dans notre relation. De réconciliation, même s'il y avait déjà une réconciliation quelque part. Mais bon, on sait que le pardon, d'ailleurs mutuel, prend du temps. Hein, c'est pas juste un mot, je te pardonne, ok.
Oui, oui.
Tout ça prend du temps. Hein. Donc, je pense que voilà, il a manqué un peu de temps pour ça, je dirais. Voilà, qui me voit un peu aussi évoluer dans cette bonne lancée là, que j'ai entamée depuis 3 ans avec l'arrêt des addictions.
Il avait eu le temps de constater ça ou pas encore ? Est-ce que vous étiez. Est-ce que vous n'étiez pas en période d'essai encore ? Vous voyez, parce que lorsque on a habitué les siens à mener ce type de vie, souvent ils sont perplexes sur le fait que vous arrêtiez comme ça. Ça faisait 3 ans. Est-ce que là, ils commençaient à voir que c'était du sérieux pour vous ?
Très rapidement, il l'a vu. Parce que, bon, il y a eu un arrêt très rapide de ma part. Oui, ce que vous dites, ça a duré peut-être quelques mois, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, ils ont vu que c'était du sérieux. Bon, après, c'est parce que j'ai arrêté aussi d'une manière un peu... Enfin, c'est un peu atypique ce qui m'est arrivé. Donc voilà, non, je crois qu'ils ont été assez rassurés rapidement. Après, ils s'inquiétaient plus pour... Mon père s'inquiétait plus pour le fait que je n'ai pas de travail. Hein, je n'arrive pas à m'inscrire dans une vie professionnelle.
Ça, on en parlera tout à l'heure. C'est intéressant, en tout cas, d'évoquer le fait que maintenant que vous allez bien, vous appliquez
mieux.
Pardonnez-moi, c'est vrai.
Mais
que vous appliquiez maintenant, ce que faisait votre père, en fait, avec vous n'étiez pas spécialement d'accord quand il faisait ça, en plus.
Ah non, c'est quelque chose que j'ai toujours... j'aimais pas, moi, quand je dis ça avec ma mère. Non, j'aimais pas.
Alors, quand votre femme vous dit que vous faites comme votre père, ça vous évoque quoi ?
Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au moment où elle me l'a dit, justement, il y a 2 jours, hein, elle me l'avait déjà dit auparavant, je ne m'étais pas braqué, puis j'ai pensé que c'était très judicieux et que c'était vrai. Mais c'est compliqué, évidemment. Ça passe par 2 étapes, c'est que je me braque dans un premier temps. Voilà, je ne veux pas être comparé à mon père avec justement tout ce qu'il a pu être dans ses limites. Et à la fois, je m'en veux. Voilà, je m'en veux, donc j'ai une difficulté à reconnaître. Et puis, bon, je finis toujours par reconnaître. Hein.
Oui. Ça, c'est bien.
Mais il y a ce...
Très bien.
Ouais, je pense, je crois que je suis de bonne volonté. Je peux être un peu con parfois, mais je crois qu'au fond, voilà, j'essaie de reconnaître. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est parfois, c'est par phase, et par phase, j'ai un truc qui me paraît un peu incontrôlable, j'allais dire, voilà,
C'est incontrôlable, d'accord.
ouais, il y a un truc qui me dépasse un peu comme ça, ouais.
Alors,
Je me l'explique pas trop, ouais.
pour celles et ceux qui ne nous ont pas écoutés hier soir jusqu'au bout, vous preniez l'exemple de votre compagne qui mettait pendant quelques jours le même t-shirt et que cela vous gênait, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres voilà, d'autres fois où vous lui avez fait des réflexions comme ça et qu'est-ce que ça provoque chez vous exactement? Parce que hier soir, on n'est pas allé au bout de ça. Quelle sensation cela provoque chez vous?
De le dire, vous voulez dire?
Non, de le dire parce que ça vous gêne quelque part. Quelle est cette gêne en fait?
Je crois que ça rend. Oui, c'est intéressant de me poser cette question parce que je crois que ça renvoie à ma propre relation, j'allais dire à la propreté,
Comme si elle négligeait cette relation.
à il m'est arrivé de le penser, alors que c'est pas le cas, alors que j'en ai bien conscience. Mais je pense que c'est plus vraiment. Moi, je suis un peu. Bon, déjà, j'ai un odorat, mais bon, je suis un grand hypersensible, comme plein de gens. Mais j'ai les sens aussi très développés, j'ai un odorat très très développé. Ça me rend d'ailleurs. Ça me pose des difficultés parfois,
Oui.
parce que j'ai tendance à sentir des odeurs que d'autres ne sentent pas. Et j'ai un rapport à la. Voilà, moi, je change de fringue vraiment une fois par jour, voire deux. C'est limite un peu maladif, quoi. C'est-à-dire que je veux être toujours très propre, quoi.
Oui, et donc
Voilà, donc.
votre compagne, c'est un peu le contraire par moment, en tout cas.
Ouais, le contrat, c'est pas le même fonctionnement, parce que moi, je me rends bien compte que c'est un peu excessif, moi aussi, comme je suis, donc je sais pas si c'est. Ouais. Je sais pas si c'est le contraire, mais c'est autrement. Voilà, je sais pas où est la norme, je sais pas si on a une, mais voilà.
Alors, vous disiez
Ouais.
que ce type de réflexion amenait donc évidemment des heurts entre vous.
Oui.
Comment ça a évolué depuis 24 heures? J'aimerais savoir, en fait, vous restez, elle reste là-dessus sur ses réflexions ou est-ce qu'elle avance, elle?
Eh bien, on a pu discuter, parce que comme à chaque fois, moi, au bout d'un moment, je reconnais. Donc, évidemment, je vais demander pardon. Je vais demander pardon. Je redis que, évidemment, que je l'aimais et que tout ça, c'est pas important et que c'est mon problème à moi, en fait. Hein, donc voilà, on se retrouve bien, finalement, là. On se retrouve bien et puis il faut que je fasse très attention à l'avenir. Puis je crois que j'ai à travailler, hein, sur, j'allais dire, de manière large, voilà, de me détacher de mon père, moi je dirais. Voilà.
Ce qui n'est pas facile pour
Non.
vous, parce que pour le coup, il n'est plus là. Et c'est plus facile de faire ce travail lorsque, si votre père était encore là, ça aurait été beaucoup plus facile pour vous de faire ce travail, peut-être avec lui,
Oui.
en tout cas en évoquant certaines choses. Donc, bien évidemment, je pense que ça va nécessiter que vous redoubliez d'efforts pour sortir de ça, en fait.
Oui.
Mais
Oui, il me semble aussi, oui.
vous m'avez parlé d'engagement hier soir, parce que votre femme est enceinte de 4 mois,
Oui.
et vous m'avez dit que lorsque vous y pensiez, ça vous étouffait, que vous aviez peur devant cette situation. Et quand je vous ai évoqué l'engagement, vous m'avez dit que oui, c'était ça.
Oui, alors je vais préciser les choses. C'est pas le fait qu'elle soit enceinte précisément juste ça qui peut me faire peur. C'est un ensemble, c'est un contexte en fait. C'est
Ouais.
le fait que voilà, je vous avais parlé de sa famille qui peut prendre beaucoup de place parfois. C'est son ex-mari aussi qui est très compliqué et qui vient comme ça dans notre couple parfois, hein,
Alors,
par les soucis qu'il pose.
je précise aussi pour ceux qui n'étaient pas là hier soir que cet ex,
Ouais.
entretient des relations très nocives avec votre compagne actuelle, que c'est quelqu'un d'extrêmement nocif, et que ils ont un enfant en commun, un petit garçon de 11 ans. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Petit garçon qui va de temps en temps chez son père.
Une semaine sur deux.
Une semaine sur deux.
Il y a une garde alternée. Ouais, ouais.
Donc cet homme a tout de même une capacité de vous impacter, en tout cas d'impacter votre femme à plus ou moins courte échéance à chaque fois. À chaque fois que le petit va chez lui, il a la possibilité de vous bousculer un peu.
Eh bien, c'est ça. Ouais. De manière directe ou indirecte. Il utilise beaucoup le petit. Alors, ça me... Aussi, voilà. C'est une manière très vicelarde. Ouais. Donc, il vient impacter directement ma compagne et donc notre couple, hein, parce qu'on passe du temps à démêler tout ça, parce qu'elle reconnaît qu'elle est... Elle était sous emprise hein, à l'époque de cet homme. Ouais. Elle reconnaît que c'est compliqué, on sait bien que c'est très compliqué de sortir, même après séparation.
Ouais.
Surtout quand il y a une garde, encore un lien hein, qui fait qu'il y a un enfant. Du coup, ouais, voilà, c'est pas évident. Ouais. Ouais, ouais.
Et vous évoquiez sa famille parce que votre femme a un jeune frère qui souffre de schizophrénie, hein, une grave
voilà,
schizophrénie,
ouais.
Et elle s'occupe beaucoup de son frère.
Et de sa mère, oui, oui.
Et de sa mère.
Ah alors, oui, les rôles sont inversés. Hein. C'est elle la mère de famille, quoi.
D'accord.
Ouais, ouais, ouais.
Donc,
ah ouais,
finalement, tout le package avec cet enfant qui va arriver dans quelques mois.
Oui.
Quelle sensation se dégage de tout ça, en fait? Est-ce que ça fait beaucoup pour vous?
C'est ça. En fait, ça fait beaucoup, mais par moment, je dirais. C'est pas continu. Moi, je suis tellement heureux de voilà qu'on attend un enfant. C'est complètement inconnu. Hein. J'ai la trouille en même temps. Hein. Je dis pas que c'est voilà. En plus, je vais moi-même devenir père. Alors il y a tout qui se joue avec mon propre père. Bon, il y a tout ça. Mais non, je crois qu'il y a évidemment une joie. Mais pour toute la préparation au mariage aussi, même si moi j'ai plus tendance à mettre un frein sur voilà, faut pas aller trop vite parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Et je dirais que c'est pour ça, c'est par moments où j'ai tendance un peu à voilà, quand il y a la famille, la belle famille qui va faire un peu trop prendre de place ou l'ex, tout ça, et c'est là où j'ai tendance à un peu saturer. Voilà, et je me dis, mais est-ce que je vais y arriver, quoi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, je dirais que c'est par moment. C'est pas continu, mais c'est par moment, en fait.
Vous l'avez évoqué avec elle, ça?
Bien sûr, oui,
ouais.
Oui. Ah oui, on parle beaucoup.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit, alors?
Mais qu'est-ce qu'elle me dit
Est-ce qu'elle a confiance en l'avenir? Est-ce qu'elle évoque que, justement, quand cet enfant va venir... moi, je pense, hein, je me permets de vous dire que je pense que quand cet enfant va arriver, ça va bien évidemment bousculer aussi votre couple, parce que l'arrivée d'un enfant bouscule physiquement.
Oui.
Hein,
oui.
En même temps, émotionnellement, c'est quelque chose de très fort, d'unique. On est submergé par quelque chose qui est de l'ordre de l'immense, d'un amour qui naît là d'un seul coup, un amour qu'on n'a jamais éprouvé et qui sera un amour éternel. Donc, il y a une dimension immense qui fait que, aussi, vous êtes lié tout à coup à vie aussi avec cette femme que vous aimez,
oui,
en plus. Donc, quel cadeau.
Oui.
Et que, peut-être... Alors, c'est vrai que je conseille souvent de ne pas trop se projeter dans la vie lorsqu'on affronte des périodes compliquées, mais que lorsqu'on est dans la future paternité, je pense que c'est bien de se préparer à ça et de vous projeter, de voir quel rôle vous allez avoir dans tout ça. Parce que je pense que les femmes attendent beaucoup de nous lorsqu'un enfant arrive, et que, comme les hommes sont d'éternels petits garçons pour beaucoup d'entre nous, on a toujours du mal à trouver notre place, vous voyez. Et peut-être que vous ressentez... déjà les prémices de tout ça. Donc, c'est bien que vous y réfléchissiez. Après, je pense aussi qu'avec cet enfant qui va arriver, cette cette famille va être un peu relayée momentanément au second plan, vous voyez. Je pense que c'est votre petit cocon, là, avec déjà cet enfant de 11 ans, et puis ce petit frère ou cette petite sœur qui va arriver. Et vous, vous deux, ce que vous allez en faire, tous les deux?
Oui, ouais. Mais j'espère... mais je pense que vous avez raison, forcément, ça va... De fait, le cocon va se créer. C'est sûr.
Je pense que vous allez jouer aussi un rôle très important vis-à-vis du fils de votre femme. Vous voyez, ouais. tout va se modifier, en fait. Vous allez vraiment former une famille, ouais, une famille recomposée, mais parce qu'il y a ce petit bonhomme de 11 ans.
Et puis ça se passe super bien. Voilà, on est tous les trois, ça se passe super bien. J'ai déjà une bonne place, j'allais dire, je me sens à ma place. Pas de père, mais voilà, de futur beau-père. Enfin, puisqu'on n'est pas marié encore, mais donc voilà. Mais alors idéalement, voilà, ce serait qu'il n'y ait que ce cocon qui n'est pas d'ex, qui n'est pas voilà une famille à côté qui soit trop présente. Mais bon, c'est pas la réalité, évidemment. Mais oui.
C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez la pression un peu, je pense. Parce que vous allez être ça, papa, oui. Et on va aborder donc, du coup, peut-être que la clé de tout ça, elle réside dans le fait de ne pas avoir trouvé votre place professionnellement. Vous m'avez dit hier soir, en fait, être monté à Paris pour faire de la musique, hein, c'est ça, j'ai bien compris.
Oui. Tout à fait.
Et que ouais, voilà, c'est bien évidemment compliqué, mais rien ne vous empêche, rien. Parce que je peux vous dire que tous les artistes que je connais, personnellement, sont tous des gens qui ont traversé des périodes comme vous, vous voyez, Jean-Baptiste. C'est, des périodes où, parce que la musique, c'est très difficile, et en même temps, ça peut d'un seul coup décoller. Il ne faut surtout pas laisser tomber. Ce côté-là qui vous nourrit sûrement beaucoup et qui vous fait énormément de bien. Il ne faut pas que vous vous disiez la musique c'est fini, maintenant il faut que je travaille, je vais avoir un enfant. Vous voyez, c'est pour ça que je vous conseille de vous projeter un peu et de bien répartir les choses, parce que le fait de travailler, en fait, à part la musique, en fait, est-ce que vous avez d'autres envies sur certains secteurs professionnels qui vous font envie?
Oui, alors déjà pour la musique, j'en fais toujours, hein, j'en fais toujours, mais pour moi, hein, parce que je compose.
Oui.
Je suis chanteur, guitariste de base, mais après je touche un peu à tout et donc je compose. Donc j'en fais toujours, mais je le garde en passion actuellement.
Oui.
Et après pour le reste, d'autres idées, bien sûr, mais ça nécessiterait des formations, je me sens pas capable. Ça serait évidemment, l'aide à la personne. Ça serait, écoutez, idéalement, c'était quelque chose que j'ai longtemps voulu faire aussi.
Oui.
C'est être psychologue, vous voyez. Avec ce que mon père me disait que j'étais, je me sentais forcément incapable avec ces longues études. Et là, je ne me sens pas du tout de reprendre des études dans ce... Voilà, mais ça serait ça, évidemment, oui. C'est d'être au service des autres, à l'écoute des autres. Et ouais, ça, c'est ce qui me tient, j'allais dire, dans ma vie de tous les jours, d'ailleurs. C'est ma manière d'être avec les gens.
Mais rien ne vous empêche de vous diriger vers ce secteur où il manque cruellement de personnes comme vous, hein, je veux dire, avec cette vocation. Vous voyez, je pense réellement que si vous prenez votre courage à deux mains, en tout cas si vous arrêtez de vous sous-estimer un peu pour ce côté-là, hein, professionnel, je précise.
Gros, pour le reste aussi. Hein,
oui, je sais, voilà. Il ne faut pas s'attaquer au package d'un seul coup, oui. Vous voyez. Je pense que professionnellement, ça, si vous voulez aller dans ce secteur-là, il y a quand même des choses qui sont vraiment du domaine du possible. Et vous avez, lorsque vous dites que ça nécessite des formations, c'est-à-dire vous avez cherché de quel côté?
Non, mais j'avais regardé déjà pour être psy. Donc ça, c'est très long, c'est... financièrement, c'est compliqué. Après, non, je m'étais renseigné sur des choses plus accessibles comme le coaching, qui est très à la mode.
Oui.
Bon, j'ai recherché sans vraiment rechercher non plus. Hein. Voilà. Mais j'ai pas trop poussé les choses. Je m'autorise pas, de toute manière, je crois. Je crois
pourquoi que je pourquoi pas, vous ne vous autorisez pas?
Comme pas mal de choses. Bah, vous voyez, tout ce qui m'engage, en fait, je crois que j'ai peur d'entrer dans la vie. Je suis jamais vraiment rentré dans la vie, vous voyez?
Oui, ouais, je vois.
Je dirais ça comme ça, à tout niveau. Et tout ce qui nécessite un engagement, une prise de risque, un saut dans le vide, en confiance, parce que eh ben, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal.
C'est aussi parce que vous avez affronté la vie longtemps avec des produits qui vous stimulaient, sans doute, et affronter cette réalité sans ça aujourd'hui. Bah, au passage de ces 3 ans passés clean comme ça, vous avez quand même affronté cette réalité quand même. Vous avez eu beaucoup de courage de le faire. Donc le fait d'affronter le milieu professionnel armé de ce courage, que vous me donnez l'impression d'être parfaitement capable de le faire.
Ah oui, mais ça peut-être. Mais je peux vous assurer qu'intérieurement, non, c'est très compliqué. J'ai pété un câble quand j'avais 20 ans, j'ai été violent contre mon père, justement, là où tout a explosé, j'ai voulu lui reprocher un peu tout ce qu'il m'avait infligé. Donc je suis allé dans un truc de repos, quoi, un hôpital de repos, on m'a mis un traitement, et j'ai un traitement depuis mes 20 ans. Bon, maintenant j'ai des doses minimales, mais tout ça pour vous dire que j'ai des grandes angoisses, je suis traversé par vraiment des choses qui peuvent me paralyser même, hein, avec des... Donc, voilà, beaucoup de gens me disent de l'extérieur, mais tu sembles bien, pourtant tu sembles à l'aise, tu sembles. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple à l'intérieur. Et les 3 ans là, de clean où je suis, ça a été long, ça a été long. C'était du bonheur et en même temps, ça a été réapprendre à vivre, voilà, sans ces filtres, sans ces voiles, sans ce lubrifiant social là, qui me permettait de vivre dans une illusion. Et petit à petit, ça va de mieux en mieux. Mais 3 ans, à la fois, c'est rien. C'est rien du tout quand on sort d'une vie comme j'ai eu. Enfin, il faut bien ça, quoi. Voilà, j'ai pas fini de cheminer, quoi.
Mmh. Et il faut bien ça. Et si vous sentez que vous avez encore besoin de temps, accordez-vous ce temps. Accordez-vous ce temps. Bien évidemment, ouais, dans la mesure du possible.
Oui.
Parce que vous devez avoir un loyer à payer aussi. Est-ce que de ce côté-là, comment ça va de ce côté-là, en fait? Vous arrivez à vous débrouiller tous les deux?
Oui, elle a ma compagne a un bon salaire, moi j'ai des aides de l'État, voilà, qui sont ce qui est, mais on s'en sort, ouais. D'accord. C'est elle qui prend beaucoup tout en charge. Ouais, ouais.
Que fait-elle en fait dans la vie?
Elle est assistante sociale en hôpital.
D'accord.
Dans différents services, à l'intérieur dans différents services, ouais.
Jean-Baptiste, vous restez avec moi, on va continuer à échanger tous les
bien
deux,
sûr.
Et puis on se retrouve après l'information sur Europe. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Europe 1. 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 5 minutes et vous êtes sur Europe 1. C'est votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous appeler au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Nous sommes là pour vous écouter. Et nous sommes pour le moment avec Jean-Baptiste, futur jeune papa, futur jeune marié, Jean-Baptiste qui a 38 ans, et qui nous évoque ses difficultés à mettre les pieds vraiment... de manière confiante dans le milieu professionnel. Alors, Je vous incite quand même, Jean-Baptiste, à prendre votre temps, hein, si vous trouvez que vous n'êtes pas arrivé au bout du cheminement dont vous avez besoin pour vraiment prendre confiance en vous, parce que si vous ressentez que vous avez encore du chemin à faire, faites-le, en fait. Vous en pensez quoi?
J'en pense que vous m'avez dit ça tout à l'heure, là, vous me redites, et je crois que ça me fait beaucoup de bien de l'entendre, parce que je crois que je me mets une injonction comme ça, qu'à tout prix, il faut que je reprenne le travail là. Je crois que mon père aurait aimé que je travaille. Ma mère, qui est encore là, je pense qu'elle se fait beaucoup de soucis sur le fait que je ne travaille pas. Vous savez, dans la société, dehors, qu'est-ce que tu fais? Tu ne travailles pas, comment tu fais? Bon, vous voyez, c'est normal, la norme, c'est le travail. Et ça fait du bien d'entendre que je peux aussi prendre mon temps, parce que c'est sûr que je sens que j'en ai encore un peu besoin, quoi. Je suis en reconstruction, quoi.
Oui, et vous avez raison d'évoquer la pression de la société, mais quand on la met de côté, quand on rentre dans notre propre réalité, et qu'on qu'on écoute nos intuitions, et dans votre cas, c'est important. Je pense que pour chacun d'entre nous, c'est important de ne pas précipiter les choses. Parce que si vous les précipitez, vous avez toutes les chances de planter vos projets, et puis surtout de vivre ça de la mauvaise manière, vous voyez. Alors que je suis certain que quand vous le sentirez, ça ira de toute façon même plus vite, vous voyez, de manière plus fluide, et vous serez beaucoup plus même performant dans ce que vous allez décider de faire. Bien évidemment que ce sont toujours les autres qui vous mettent la pression, qui vous regardent, qui vous jugent, mais ce qui est important aujourd'hui pour vous, c'est vous. Après tout ce que vous avez traversé, vous pourriez être malade aujourd'hui, vous pourriez même ne plus être là avec ce qui s'est passé dans votre vie, et je crois que vous pouvez vous réjouir chaque jour que, voilà, juste pour aujourd'hui, j'avance un peu, je pose des actes et je fais ce qu'il faut pour m'élever et être bien, bien ancré dans ma famille, avec ma femme, avec cet enfant de 11 ans. Et le travail, il est à venir, il est là aussi. Parce que moi, j'ai tendance à penser, en vous écoutant, que la sensibilité que vous avez vous porte et fait de vous un être très précieux, mais qu'en même temps, vous avez encore, oui, du chemin à faire, et que quand cet enfant va arriver, l'arrivée d'un enfant, ça bouscule beaucoup de choses, y compris dans le sens qu'on peut donner à sa vie, tout à coup. Et dans les prises de responsabilité, et j'irais même un peu plus loin, dans les prises de risque, on se sent plus fort, parce qu'il y a cet enfant, parce qu'on est responsable de lui, et je trouve que cette pression, elle est beaucoup plus... Comment vous dire ? Je cherche le mot que je voudrais trouver. C'est pas justifié. Elle est. Ça va me venir. Elle s'impose d'elle-même. Elle est naturelle. Elle nous tombe dessus, en fait. J'ai du mal à trouver le mot exact. Je l'ai au bout de la langue et je ne trouve pas. Elle s'impose parce que l'arrivée d'un enfant, comme je vous dis, ça bouscule beaucoup de choses. Alors, bien évidemment, ça mène à un questionnement sur la responsabilité, sur tout un tas de repositionnement. Mais ça nous impose aussi une volonté nouvelle. C'est de faire attention à cet enfant, de prévenir à ses besoins légitimes, voilà, en fait. C'est une pression légitime qui... Et vous voyez ce côté naturel du côté légitime. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a envie de se bouger plus, cette responsabilité nous donne plus confiance en nous, parce qu'on regarde plus ce petit bout-là, on regarde sa femme, on a envie de les protéger, et donc du coup, ça crée une force nouvelle. En tout cas, c'est comme ça que je le sens.
Ah bah écoutez, c'est beau.
Merci, mais...
c'est beau si c'est ça, et si c'est... Ouais. Mais je l'imagine comme ça aussi. Bon, au milieu de mes peurs aussi, mais... Ouais. Ah, mais c'est beau ce que vous dites. Ouais.
Et dans cet engagement, en fait, qui est le vôtre aujourd'hui, avec les peurs qui accompagnent, hein, justement, cet engagement et tout le travail que vous avez à faire sur vous, pour justement ne pas appliquer ce que votre père vous a montré. Parce que ça aussi, c'est aussi, vous évoquiez la pression de la société, mais la pression qu'il vous a mis sur les épaules, comme si, en fait, ce qu'il faisait, lui, était bien. Vous voyez, parce qu'il avait réussi en tant que chef de famille, peut-être, à mener vos frères et sœurs dans la vie, et qu'il s'était réalisé, et qu'il y avait une certaine reconnaissance familiale de cet homme. Votre père, ça n'est pas vous. Et vous, vous n'êtes pas votre père. Donc, il faut que vous arriviez à vous libérer de ce qu'il était, de sa vision de l'éducation, de sa vision de qui vous étiez, en fait. Et bien réaliser que vous êtes un homme, vous êtes un mari, vous êtes un futur père, vous êtes un beau-père aujourd'hui, vous êtes déjà tellement de choses, tellement de choses.
Ouais, et c'est vertigineux.
C'est vertigineux,
mais dans le bon sens.
Mais la vie est vertigineuse. Si,
ah, mais ça,
et Dieu merci, on ne passe pas notre temps à faire justement... l'évaluation de toutes ces responsabilités qu'on peut avoir et justement de tout ce qui nous attend, parce que justement ces envies et la force qui nous pousse, hein, et qui naît de tout un tas d'événements dans la vie, fait que les choses se font naturellement. Nous sommes de merveilleuses machines quand même, quand vous y réfléchissez bien.
Ouais.
Et donc voilà, c'est je dirais que en fait, quand je pense à vous et au bilan que vous m'avez exprimé ce soir, il est normal, vous avez des questions sur vous, mais voilà, qui demandent réponse, qui demandent de se solutionner avec voilà, un cheminement, avec du travail sur vous et beaucoup d'écoute de votre compagne, parce que j'ai l'impression qu'elle a beaucoup cheminé, elle, avec sa famille et avec cet homme dont elle s'est... Elle s'est extirpée des griffes de cet homme, vous voyez, donc entre son frère qui souffre de schizophrénie, sa maman, dont elle s'occupe beaucoup, oui. Cet homme qui exerçait une emprise sur elle, c'est quelqu'un qui a dû beaucoup cheminer déjà et qui doit être très riche en termes de,
oui.
victoire, vous voyez.
Ah oui.
Et comme vous êtes très amoureux l'un de l'autre, c'est une formidable chance de puiser dans cet amour-là, parce que moi, j'ai tendance à penser, vous savez, que, et ça va peut-être paraître un peu ridicule, mais je m'en fous, en fait. Je crois que la famille, c'est vraiment quelque chose de très... C'est le socle qui nous permet d'aller toujours un peu plus loin, même si on se perd à certains moments. Mais on sait qu'en revenant là, on va pouvoir... reprendre des forces, se reconnecter.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec cette... Oui, je vous rejoins. Ouais.
Et la première chose à réussir, c'est ça. Et jusqu'à maintenant, je pense que vous le réussissez plutôt bien avec cette femme.
Ben, on essaye,
oui. Ben ouais. Et après le chemin que vous avez parcouru, là, c'est... vous savez, chez les narcotiques anonymes, on dit souvent... D'abord, on dit chaque jour, juste pour aujourd'hui déjà, fais ce que tu as à faire. Vous m'avez dit que vous y étiez allé là-bas, donc rappelez-vous bien de ce qu'on vous dit. Et de continuer, même parce que justement vous êtes clean aujourd'hui, de bien appliquer ce qu'on vous enseigne là-bas. C'est d'abord croire à cette puissance supérieure qui est la vôtre, à vous, hein, très intimement. Appliquer justement ce juste pour aujourd'hui, je vais essayer de faire ce que je peux. Et puis, le fait que vous soyez clean depuis 3 ans, c'est magnifique. Donc vous vous rendez compte de tout ce que vous avez
Et vous savez, je ne sais pas si on a encore un peu de temps ou
On a
pas.
encore 5-10 minutes, ouais.
Bon, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que dans mes addictions, j'ai un peu tout essayé pour arrêter. Je suis allé voir des alcoologues pour l'alcool, je suis allé au AA. C'est formidable, les AA, d'ailleurs. Je sais que vous en parlez, vous en avez parlé encore il n'y a pas longtemps.
Oui, c'est très puissant, en tout cas pour tous ceux qui ont des problèmes d'alcool. Les alcooliques anonymes, il faut y aller.
Ouais.
C'est bien de le dire et de le redire, parce que c'est l'endroit où on réalise qu'on n'est pas seul au monde, et que d'autres souffrent comme nous, et pourtant ils sont différents. Des fois, ils sont plus riches que nous, riches matériellement, riches culturellement, encore plus perdus que nous, et ça nous permet de voir que nous ne sommes pas seuls, en fait.
Oui, c'est ça.
Parce et donc, c'est puissant, vous avez raison.
Ouais. Et puis surtout, l'alcool, c'est une maladie du lien, c'est une maladie de, de la solitude. Donc effectivement, se retrouver, on a l'impression qu'on parle de, quand il y a un témoignage chez Léa, on a l'impression qu'on parle de nous, quoi. Et on se reconnaît, effectivement. Mais voilà, enfin, moi, j'ai essayé pas mal de choses, et Léa, j'ai suivi. J'ai participé aux réunions pendant 6 mois. Après, j'ai eu un déménagement, donc j'ai pu y aller. Donc, j'ai replongé au bout de 6 mois. Hein. J'avais arrêté pendant 6 mois, mais j'ai replongé. Puis après, ma vie a fait que. Après, j'étais au milieu de la musique, donc ça, c'est sûr que c'était pas évident d'arrêter. Et puis, en fait, ce qui s'est passé pour moi, alors je sais... J'ai arrêté du jour au lendemain, mais c'est parti d'une prière. C'est parti d'une prière à Dieu, en disant écoute, si tu existes là, je suis au bout là, je suis à poil, je peux plus rien, je vais devenir fou, je vais mourir. Et puis j'ai été entendu et voilà, depuis je chemine humblement avec cette foi que j'ai pour Dieu. Bon. Après, chacun ses croyances et tout ça. Hein. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et c'est en cela que j'ai réussi à arrêter vraiment du jour au lendemain. Tout seul, j'étais incapable. Incapable. J'avais tout essayé. Et j'ai eu cette grâce qui m'a permis de... cet amour que j'ai ressenti, qui est totalement surnaturel, hein, qui m'est tombé dessus, qui m'a fondu dessus. Tout était beau, lumineux. Et... c'est ce qu'on appelle une effusion d'esprit chez les chrétiens. Et c'est ça qui me tient, qui m'a tenu aussi pendant ces 3 ans, là aussi. Hein.
Et qui va vous permettre de réaliser tout un tas de choses formidables, parce que, vous le savez aussi, on l'entend beaucoup au NA et au AA, et surtout on le voit, c'est que toutes les personnes qui ont décroché depuis longtemps ont réalisé tellement de grandes choses. Ce qui est promis là-bas se réalise.
Oui.
Et oui.
Oui.
Donc le chemin, vous en connaissez une partie déjà, je trouve.
Je commence.
Je commence. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas à me rappeler, Jean-Baptiste. Voilà.
Ça sera vraiment avec plaisir.
Oui, parce que... Dites-moi.
Pardon. Non, je tiens vraiment à vous remercier. Et à votre équipe aussi. Et puis pour ce que vous faites, je vous écoute très souvent. Et voilà. Tout le monde vous le dit et moi je vous le redis aussi du fond du cœur.
Et ça fait toujours plaisir, croyez-moi. Croyez-moi.
Oui.
Passez une belle nuit en tout cas et n'hésitez pas à me rappeler quand le petit arrivera, en tout cas quand vous voulez. D'accord ?
Eh bien, avec grand plaisir.
Ouais. Très bien.
Je vous embrasse. Merci, Olivier.
Au revoir,
bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Minuit 20 et nous accueillons maintenant Monique au 39-21. Bonsoir Monique.
Oui, bonsoir Monsieur Delacroix. Écoutez, je ne vous connais pas. Hein. Il paraît que vous avez travaillé à la télé. Je ne regarde pas beaucoup la télé, j'écoute plus la radio.
Oui.
Enfin, je vous trouve quelqu'un de bien.
Merci Monique.
Voilà.
Merci.
Très humain surtout, à l'écoute des gens parfois qui sont désespérés, ça réchauffe le cœur. Voilà, moi je voulais vous parler de la tutelle.
Oui.
J'ai mon mari qui est Alzheimer, donc je m'occupe de mon mari. Ça fait 3 ans, bien avant déjà, mais ça fait 3 ans quand même. Et je me débrouille avec lui, je m'en occupe très bien. Et puis, un jour, mon mari a été hospitalisé. Et donc, en plus, on connaissait déjà le psychiatre à l'époque parce qu'on allait le voir, puisqu'il nous a diagnostiqué que mon mari était Alzheimer. Alors, donc, un jour, il a été hospitalisé. Et puis là, et ben, écoutez, on m'a rien dit.
Oui, Monique, est-ce oui. est-ce que vous parlez près du combiné ou vous oui. parlez sur quel type d'appareil là en fait ?
C'est un portable.
C'est un portable. Alors essayez de un peu de vous voyez de parler
de
pas
m'éloigner.
Trop. Voilà que je vous entende mieux parce que là c'est comme si vous étiez très proche et que et ça, ça s'étouffe pas mal. D'accord ?
Comme ça c'est mieux. Peut-être.
Voilà, c'est mieux.
Donc voilà, il a été.
Est-ce que, Monique, est-ce que vous avez un fixe chez vous ?
Justement, j'ai.
Alors, on va essayer de vous appeler sur votre fixe parce qu'on a, on a quelques petits problèmes de liaison, si vous voulez bien. En attendant, on va écouter un peu de musique et puis on va se retrouver après Cat Stevens. Cat Stevens, Father and Son. Et nous avons récupéré Monique sur son fixe et je pense que ça va être beaucoup mieux, Monique. Allô ?
Oui.
Ah,
oui,
bah voilà, vous voilà, très bien.
Ah bah, vraiment, je dis vive le téléphone fixe.
Ah bah oui, ça je vous le fais pas dire, parce que là, on vous entendait dans une espèce de tornade, comme si vous étiez en plein vent. Donc,
oui, d'accord.
Donc, en fait, vous en étiez au fait que vous aviez fait hospitaliser votre mari.
Oui,
on en était là.
Il a été hospitalisé dans un hôpital normal, enfin, oui. général. Ensuite... Et ils ont transféré mon mari dans un hôpital gériatrique qui fait en même temps maison de retraite.
Oui.
Ils ont une partie qui est une maison de retraite. Moi j'allais le voir, tout ça. Et puis un jour, mon mari est sorti après, je l'ai récupéré. Ensuite, un mois après 2 mois, je reçois un coup de téléphone d'une doctoresse qui m'a dit, voilà madame, j'aimerais bien passer chez vous. J'ai dit, mais c'est à quel sujet madame? Elle me dit, c'est au sujet de votre mari. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, je suis psychiatre. Bon, j'ai dit, bah écoutez, passez à telle date. Donc elle est venue.
Oui.
Elle était charmante, hein, la psychiatre, vraiment quelqu'un de très bien. Et donc, elle parle avec mon mari, elle parle avec moi. Elle m'a dit, vous êtes bien là, c'est bien, tout. Bon, j'ai dit, oui, ben, on fait ce qu'on peut, voilà. Et je fais ce que je peux avec mon mari, voilà. Et à la fin, elle m'a dit, bon, parce que l'hôpital gériatrique m'avait dénoncé au procureur de la République.
Mais pourquoi ça ?
Alors... Quand ils m'ont dénoncé comme ça, quand cette doctoresse est venue,
oui.
moi après, quand on est retourné voir son psychiatre, je leur ai dit, pourquoi vous m'avez dénoncé comme ça ? Mais non, j'ai dit, pourquoi vous avez fait de la délation ? Est-ce que mon mari est maltraité ? Est-ce que je maltraite mon mari ? Ils m'ont dit, oh mais non, absolument pas. J'ai dit, pourquoi vous m'avez dénoncé? En plus, la psychiatre, quand elle est venue, je lui ai dit, écoutez, pourquoi voulez-vous mettre mon mari sous tutelle? J'ai dit, moi, je m'en occupe, je suis responsable de mon mari. Alors, elle me sort une chose en me disant, ah oui, mais vous savez, s'il est hospitalisé pour une opération et tout ça, il faudrait quand même qu'il soit sous tutelle. J'ai dit, pardon, j'ai dit, je suis son épouse, s'il a vraiment besoin d'une opération, ou n'importe quelle soit, eh bien, je donnerai mon autorisation, voyons. Bon, elle m'a dit, dit ça, elle m'a pris pour une arriérée.
Oui.
Donc, j'ai laissé ça comme ça. Et quand mon mari en est retourné pour 2 jours à l'hôpital gériatrique, là, il y avait tous les médecins, enfin, le médecin qui m'avait dénoncé, plus les personnes. Et là, je leur ai tout sorti. Je dis, pourquoi vous m'avez dénoncé au procureur de la République? Parce que la psychiatre m'a dit, je suis mandatée par le procureur de la République. Donc, quand je suis retournée, j'étais vraiment dans une colère noire. Et j'ai dit à toutes ces personnes qui étaient là, j'ai dit, vous êtes des délateurs. J'ai dit, vous auriez, si c'était à l'époque, en 1939, vous auriez dénoncé des gens comme ça, comme vous, comme les gens qu'ils ont dénoncés en 1939, j'ai dit, pourquoi je m'en occupe pas bien de mon mari? Est-ce que mon mari, il est maltraité? Ah, mais non, absolument pas. Non, on n'a jamais dit ça. Même son psychiatre, il m'a dit, moi, j'ai rien dit. Puis il m'a dit, j'ai rien fait. Il m'a dit, c'est quand il était en séjour à l'hôpital qu'ils ont fait ça. Il m'a dit, moi, j'ai rien à voir. J'ai dit, mais vous avez quand même eu, vous avez une réunion avec quand même les médecins de l'hôpital, puisque vous travaillez. Il m'a dit oui. Voilà, il voulait me prendre pour une arriérée. Et à la suite de ça, quand la psychiatre est venue, donc j'étais convoquée par le juge de tutelle. Je suis allée et j'ai tout expliqué. Et alors même la juge de tutelle, parce que mon mari et moi, on a 2 petites retraites. Et donc, elle m'a dit, est-ce que vous en sortez? J'ai dit, oui, bah, écoutez, j'ai toujours géré mon budget, je sais ce que je fais. Elle m'a dit, bon, très bien, et tout ça. Elle m'a dit, parce que moi aussi, j'étais mandatée par le procureur pour vous recevoir. Et
oui.
Bon, elle me reçoit, elle fait le, comment ça s'appelle, c'est pareil. J'ai dit, pourquoi la tutelle, elle est pas nécessaire, voyons. Je m'occupe de mon mari. En plus, mon mari m'avait donné... sachant qu'il était être vraiment perdre complètement ses facultés mentales, il m'avait donné la procuration, vous voyez. Donc voilà, en plus on n'a rien. Hein. De toute façon, j'ai dit à la juge, vous pouvez vérifier, aller à la banque et éplucher nos comptes et vous verrez. Hein.
Mais tout cela est très intrusif, hein, ce que vous me racontez. Voilà.
Ah, moi j'ai pleuré parce que je suis quelqu'un toute ma vie. J'ai consacré ma vie aux autres pendant plus de 44 ans, de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge que j'ai 64 ans aujourd'hui.
Oui.
Eh bien, j'ai consacré ma vie qu'aux autres et je me suis oubliée, même au point de vue maladie, même au point de vue médical, je me suis oubliée.
Qu'entendez-vous par là, Monique? Vous êtes oubliée, c'est-à-dire?
C'est-à-dire, je me suis négligée.
Et pourquoi? Parce que votre mari était malade?
Parce que je m'occupais des autres.
D'accord. Vous faisiez quoi, en fait?
J'étais gouvernante garde-malade et aide-soignante.
D'accord.
J'ai même été assistante dentaire. Vous voyez.
D'accord.
Donc voilà, je me suis toujours occupée des autres. J'ai toujours été dévouée, j'ai le sens des responsabilités. Et parfois, ça me jouait des tours parce que je protégeais les malades par rapport à certaines personnes de la famille.
Oui.
Alors que, voilà, au détriment de moi-même, quoi. Et donc, voilà, je suis allée voir cette juge, que je lui dis ce que je pensais. De toute façon, je dis, vous savez, moi, je suis directe. Si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Donc, elle me dit, bon, écoutez, moi, je vais faire le rapport au procureur de la République. Et puis, on va voir ça. J'ai dit, pourquoi voulez-vous le mettre sous tutelle? On n'a rien. Parce que le malheur, monsieur Delacroix, c'est parce que moi, mon mari a 23 ans de plus que moi. Voilà. Donc,
d'accord.
Mon mari a 87 ans et moi, j'ai 64 ans.
Oui, mais d'accord.
Voilà.
Mais...
Alors, donc, quand j'étais dans l'hôpital, là, j'étais vraiment blessée, ulcérée, révoltée. Et donc, je suis allée voir une secrétaire qui était dans ses bureaux et je lui ai expliqué. J'ai dit, écoutez, pourquoi là-haut, ils m'ont fait ça? Pourquoi? Elle m'a dit, madame, c'est parce que, vu que vous avez un petit appartement, on a un petit appartement dans un quartier comment on dit, UP, hein, entre
de
parenthèses,
Paris,
UP.
De Paris.
Oui.
D'accord.
Alors, donc, j'ai dit, écoutez, venez voir mon appartement, vous verrez. Hein. C'est un petit appartement avec beaucoup d'inconvénients. Donc, elle m'a dit, parce que madame, ils voudront. Vous savez ce qu'ils voulaient faire, madame? Elle me dit, c'est parce qu'ils veulent hypothéquer votre appartement au cas où vous le placez là. Elle m'a dit, il ne faut pas vous laisser faire, madame.
D'accord.
Parce qu'elle m'a dit, moi, je suis secrétaire et j'en ai vu des choses. Bon. Elle m'a dit, ne vous laissez pas faire, vous êtes une brave femme. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc, je les ai vraiment traités de tout. Hein. Là, moi, quand on m'attaque, j'attaque. Hein. Parce que moi, je suis honnête, je suis droite. C'est la droiture même. Elle m'a appris la droiture et l'honnêteté. Parce que moi, j'ai vécu à la DASH chez les religieuses qui m'ont appris la droiture, l'honneur et l'honnêteté. Voilà. Donc, moi, j'étais vraiment, vraiment choquée. Et à la suite de ça, ben, le procureur, un mois après, deux mois, il m'a envoyé la juge de tutelle, enfin avec le procureur. Ils n'ont pas mis mon mari sous tutelle. Le procureur a refusé de mettre mon mari sous tutelle.
Mais encore heureux qu'il a refusé, voilà, de mettre votre mari sous tutelle.
Et il m'a envoyé tout un
argumentaire.
Ah là là, tout plein de choses, quoi. Et j'ai dit. Tant mieux, ça m'a soulagé.
Et oui, alors, qu'est-ce qu'il vous mettait dans cet argumentaire, exactement?
Bah, il me disait, même si je voulais, il pensait même que je voulais la tutelle, il me dit, si vous n'acceptez pas le jugement, vous pouvez faire appel dans les 15 jours, un mois, ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne voulais pas faire un jugement, enfin, je n'allais pas faire appel pour mettre mon mari sous tutelle. Voilà.
Ben non,
et
non.
Moi, j'ai dit que je voulais garder mon mari à la maison. J'ai dit, je m'en occupe. Je ne veux pas que mon mari aille dans une structure. De toute façon, s'il part comme ça, il va vite partir. Et moi, je veux garder mon mari. J'ai dit, nous nous sommes mariés. Et ben, c'est comme ça.
Pour le meilleur,
c'est mon honneur
pour le meilleur
et mon droit.
Et pour le pire, en plus.
Voilà.
Hein, vous rappelez ce que le maire vous a dit à l'époque, hein, c'est-à-dire,
oui,
cette autorité que représente le maire, qui est aussi qui fait partie du système, vous savez, de la justice, puisqu'il,
oui,
est le premier officier de police judiciaire.
Oui,
on vous a marié pour le meilleur et pour le pire. Donc,
oui,
tout à coup, ces gens qui viennent se mêler de vos affaires, c'est très surprenant. C'est la première fois que j'entends un truc comme ça, Monique.
Ah oui, et je vous assure...
Vous avez dû tomber des nues.
Moi, ça m'a blessée.
Mais oui,
bon, si j'étais une personne malhonnête, parce qu'ils pensaient, vu qu'on avait 23 ans de différence, que moi, j'allais... Parce qu'on a rien, que j'allais délapider, on n'a rien du tout, on n'a même pas de fortune. Notre seul bien, notre seul patrimoine, c'est notre petit appartement.
Mais bien
c'est
sûr.
Tout ce qu'on a.
Bien sûr.
Voilà.
Et puis,
mais on a eu beaucoup de mal, hein, à en avoir un. Et en plus, c'est au rez-de-chaussée avec tous les inconvénients. Voilà.
Mmh.
C'est pas un appartement de luxe. Hein.
Non, mais c'est votre appartement.
Voilà.
Voilà. C'est
on a travaillé
vous.
Pour et.
C'est à vous. Voilà, exactement. Vous avez travaillé pour. C'est à vous et personne n'a à venir loucher sur cet appartement pour n'importe. Enfin, c'est.
Moi, je vais vous dire quelque chose, Monsieur Delacroix. Moi, j'ai pendant de 1990 à jusqu'en début 2017-16, eh ben, je n'ai pas pris de vacances. Mes dernières vacances, 90, ça datait de Houlgat.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Voilà. Je n'ai jamais pris des vacances. Jamais. J'ai travaillé. Voilà. Comme je vous dis, je m'occupais des malades et en plus, je me suis laissée aller et pourtant, j'avais une maladie très grave. Ce qu'il m'a dit, le professeur, il m'a dit qu'il fallait qu'on vous mette en invalidité à l'âge de 36 ans. Et je n'ai pas voulu. Voilà.
Vous avez
été élevée à la dure.
Ouais. Oui, oui.
Voilà.
Oui,
moi, je n'avais pas papa et maman derrière moi. Hein. Quand je suis sortie de la DAS, il fallait que je me débrouille toute seule.
Comme,
voilà.
comme aujourd'hui,
toujours...
Monique. Comme aujourd'hui.
Non, à l'époque, ils étaient très bien. Moi, je n'ai rien à dire sur les...
Non,
elles étaient formidables.
Je ne vous dis pas ça,
Monique.
Je ne vous dis pas ça. Je vous dis comme aujourd'hui,
oui,
vous ne demandez rien à personne.
Non.
Hein,
non.
Que personne ne vienne vous embêter de la sorte, parce que c'est...
Je ne demande rien, je demande à m'occuper de mon mari, et c'est tout. Je fais tout pour mon mari. Et mon mari, il est très bien. Et je peux vous dire, monsieur Delacroix, et mon mari, eh ben, à côté de moi, eh ben, il fait plus jeune que moi. Je vais vous dire quelque chose. L'autre jour, il y a trois, quatre mois, oui. J'ai discuté avec une dame âgée dans la rue et elle m'a vue avec un masque parce que j'avais fait une pneumonie en plus. Oui. Et j'ai travaillé pour mon mari à 39, trois semaines d'antibiotiques. J'ai continué à travailler, même quand j'étais malade, j'avais eu déjà une pneumonie il y a 6 ans. Et ben, j'ai continué à travailler avec 39. Je ne me suis pas arrêtée et le professeur m'a dit, vous savez qu'on en meurt d'une pneumonie. J'ai dit, je sais. Voilà. Donc, j'étais à fond dans mon boulot, à fond pour mon mari. Et comme je vous ai dit, je me suis oubliée, je ne me soignais pas. Et vraiment, je trouvais que pour moi, c'était injuste de ce qu'il m'arrive là. Et j'étais blessée beaucoup dans ma vie. J'ai toujours fait le bien, mais j'ai toujours reçu le mal. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pour ça. Mais je suis fière de ce que je suis, parce que je peux dire, le soir, quand je me couche, j'ai la conscience tranquille.
Ouais, ouais.
Et puis si je me regarde dans une classe, j'ai aussi la conscience tranquille. Je peux me regarder en face.
Ce qui vous a donné sans doute la force, hein, Monique, d'affronter hein, cette épreuve-là qu'on vous a imposée, comme ça, qui sortait de nulle part, en fait.
Parce tout à fait.
Vous n'avez pas dû voir arriver les choses parce que, vous voyez, en fait, quand on mène sa vie normalement, honnêtement, il peut tomber quelque chose comme ça qui est assez incroyable.
Oui, excusez-moi, monsieur Delacroix,
je vous ai
interrompu.
Pas du tout.
Voilà, j'ai rencontré cette personne dans le quartier, cette personne âgée, et elle me parle comme ça, on parlait, on discutait comme ça sur le trottoir, et puis d'un seul coup, elle me dit « Ah, vous savez, moi, je suis plus jeune que vous, je n'ai que 79 ans. » Il y a 4 mois, elle m'a dit ça. Et quand je lui dis « Madame, je n'ai pas encore 64 ans. » Alors, quand je discutais avec un monsieur dans mon immeuble, parce que lui, tout le temps, il me dit « Vous êtes très courageuse et tout ça. » Et même mon mari, il a été hospitalisé il n'y a pas longtemps, le 3 janvier. Il est sorti, il était à l'hôpital, mais il était dans un service très gentil.
Oui.
Et la doctoresse, elle était très humaine. Et elle m'a dit, vous savez, vous êtes très courageuse. Parce qu'elle a vu comment j'étais. Et c'est vrai que mon mari, il fait plus jeune que moi. Il a 87 ans, il fait beaucoup plus jeune que moi.
Et là, en fait, comment ça se passe à la maison? Ça se passe bien?
Très bien.
Voilà.
Très bien. Cette doctoresse, justement, elle a prescrit un fauteuil de transfert, vous savez, parce que je lui donne, parce que je suis très maniaque.
Oui.
Mon mari, quand il fait sur lui même uriner, il y a incontinent urinaire et incontinent fécal. Tout ça, je m'en occupe. J'ai l'habitude, ça fait des années que je faisais ça. Donc, à chaque fois qu'il faisait même incontinent urinaire, je change la couche et je lui donne une petite douche. Je le mets dans la douche et je le lave. Et je le sors et je l'essuie, je remets une autre couche. Je ne remets jamais une couche comme ça. Mon mari, il est bien soigné. Voilà. Et moi, ça m'a peiné, quoi.
Oui, je
parce qu'on habite un quartier UP, hein, et parce qu'on a 23 ans de différence, c'est ça qui a fait. Et c'est ça, en plus, il y en avait une qui m'a fait très mal. C'est qu'elle souriait. Quand je leur disais, oui, c'est parce qu'on a 23 ans de différence, j'ai dit, c'est une sale mentalité que vous avez.
Parce qu'en gros, si j'ai bien compris, ils ont pensé que si que vous alliez placer votre mari,
oui.
et que finalement, vous n'alliez pas
non,
avoir...
Non, mais que je pourrais dilapider l'argent, voilà. Que j'aurais vendu l'appartement,
mais
et que j'aurais dilapidé l'argent. Enfin,
c'est quand même incroyable de penser...
Cet appartement.
C'est incroyable de penser à ça, comme ça, d'aller aussi loin dans...
Ah oui.
Ouais.
Oui. Moi, je trouvais qu'ils étaient lamentables, mais le jugement du procureur, la juge, hein, elle a vu que j'étais de bonne foi, elle a vu comment j'étais et tout. Elle m'a même dit, est-ce que vous voulez quelqu'un pour vous aider à la maison? J'ai dit non, je fais tout moi-même.
Alors, vous voyez, Monique, la morale de cette histoire,
oui.
C'est tout de même que vous avez su résister à ça, qui part quand même d'un hôpital, hein, qui vous dénonce, et donc que ça serve de leçon à celles et ceux qui nous écoutent, parce que voilà, on ne voit pas arriver une telle chose, et puis ça vous est arrivé, vous qui ne demandiez rien à personne, qui vous occupez très bien de votre mari. Maintenant, ce qui est bien, c'est que maintenant que vous êtes passé devant un procureur et un juge, plus personne ne vous embêtera plus du tout, Monique, à mon avis. Après, parce qu'à mon avis, vous savez, si il y a eu un signalement, comme on dit ça, comme on appelle
ça. Oui, tout à fait, il y a eu un signalement au procureur de la République, et c'est pour ça que la psychiatre, elle est venue. Parce que normalement, quand un psychiatre vient voir un malade, puisque j'avais l'habitude, moi j'avais des malades sous tutelle. Donc quand un psychiatre vient pour voir la personne, si elle a toutes ses facultés mentales, donc le psychiatre qui vient, à l'époque, il n'y a pas longtemps, il fallait payer 192 euros. Et moi, je l'ai dit à la psychiatre, j'ai dit, je vous dois 192 euros, docteur. Elle m'a dit non, parce que j'étais mandatée par le procureur, vous n'avez rien à payer.
D'accord. Kat nous demande là sur Internet au 739-21, quel était le motif officiel écrit et présenté au procureur pour solliciter une tutelle ? Est-ce que vous...
Mais ils m'ont jamais donné.
Ils vous l'ont jamais donné ?
Jamais. Jamais ils me l'ont donné. Même à l'hôpital, quand je leur ai dit, est-ce que moi, je maltraite mon mari ? Ah mais non, absolument pas. Même son psychiatre, il m'a dit, mais pas du tout. Pas du tout. Il m'a dit, moi, j'ai rien signalé, hein.
Bon, en tout cas, il y a bien eu un signalement quelque part.
Ah oui, mais il y a eu un signalement de où il était hospitalisé, le service.
Ouais, c'est voilà. Incroyable.
Voilà.
Comme quoi, voilà, il faut toujours être...
Et vous savez, ils étaient 4-5 comme ça dans la chambre. Et quand je les ai traités de tous les noms, hein, parce que moi je suis comme ça, eh bien, il y en avait une, j'ai dit, pourquoi vous faites ça ? Vous croyez qu'on est riche ? J'ai dit, on n'est pas riche, notre richesse, c'est notre appartement. Parce que moi, j'ai 23 ans de moins que mon mari. Vous croyez que qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais mettre mon mari, le jeter comme ça, et vendre l'appartement et partir avec l'argent ? J'ai dit, non. J'ai dit, vous avez une sale mentalité. Alors, il y en a une, vous savez ce qu'elle faisait, un sourire narquois. Et ça, ça m'a mis hors de moi.
Oui, je comprends, je comprends. Voilà.
C'est lamentable,
d'autant plus dans la situation que vous traversez, qui n'est, même si vous l'assumez, qui n'est pas du tout facile, Monique.
Ah oui, je l'assume. Et c'est vrai que je fais plus que mon âge. Je sais, je suis courbée, je suis à cause de ma maladie. À cause de ma maladie que je ne me suis pas soignée à l'âge de 36
ans. C'est quoi cette maladie, Monique ?
J'ai la polyarthrite rhumatoïde.
Ah oui, d'accord. Oui, donc
c'est de ça qu'elle est morte, Edith Piaf.
Oui.
Regardez les photos d'Edith Piaf sur la Côte d'Azur avant qu'elle décède. Et vous verrez, elle faisait 80 ans alors qu'elle est morte à 47 ans. Moi, quand on m'a annoncé ça à l'âge de 36 ans, eh bien, tout s'effondrait. Et en plus, le médecin qui m'a reçu à l'époque, il m'a menti. Parce que je voulais voir comment il était. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Je lui ai dit, mais docteur, est-ce qu'on guérit de cette maladie ? Je savais pertinemment que la polyarthrite rhumatoïde, on ne guérit pas. Il m'a dit, ah oui, 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 on guérit de la polyarthrite. Et moi, je savais pertinemment. Alors après, je suis partie, je n'ai plus jamais eu ce docteur. Et je suis allée prendre un professeur à Cochin. Et lui, en plus, il a découvert que j'avais... le syndrome du Gaucher-Chagrin. C'est-à-dire, j'ai plus de salive, plus de larmes. Plus rien.
Vous arrivez à vous soigner quand même aujourd'hui un peu ?
Non.
Non. Pourquoi vous ne vous soignez pas, Monique ?
Parce que c'est trop tard. C'est trop tard.
C'est jamais trop tard, vous savez. Vous êtes jeune
fini,
encore.
Je suis déformée, j'ai les mains déformées, j'ai tout ça. Non, je sais que je...
Bon.
Je ne prends que... des antidouleurs quand j'ai mal, et puis voilà. Et tant que je peux marcher, tant que je peux, je veux aller jusqu'au bout avec mon mari, comme je dis, parce que je suis vraiment dégoûtée de cette société. Je suis bien contente d'avoir 64 ans et je n'ai plus, je demande seulement à Dieu, parce que je me suis mariée à l'église, hein. Je demande à Dieu de me laisser d'accompagner mon mari et d'accompagner mon petit chien. parce qu'il est tout pour moi. Mon petit chien, il est tout pour moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup les animaux. J'ai été beaucoup blessée par les humains, mais j'aime les animaux parce qu'ils ne vous blessent pas. Ils vous aiment comme vous êtes et ils ne vous jugent pas.
Vous avez raison. Vous avez raison. Voilà.
Je voulais simplement dire ça pour que je suis une personne qui n'est pas méchante.
Mais tout le monde
l'a... Voilà, méchanceté humaine...
Tout le monde l'a entendu ce soir, Monique.
Merci.
Merci beaucoup de nous avoir appelé ce soir et de nous avoir livré votre ressenti par rapport à tout ça. Et merci pour votre courage, parce que vous êtes exemplaire, croyez-moi.
Oh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'occupent de leurs malades.
Il y en a, vous avez raison.
C'est tout à fait normal,
oui.
Je trouve.
Oui.
Voilà.
Vous avez raison, il y en a.
Il y en a quand même, oui, il y en a.
Mais ça fait du bien d'entendre quelqu'un comme vous, là, ce soir, quand même.
Oui, bah je vous remercie beaucoup.
Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui nous appellent.
Mais hein, j'avais ça fait longtemps, moi, je l'exprime de voix, je l'exprime à des gens que même ma pharmacienne, elle a ses parents qui sont âgés, et quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit, mes parents, elle m'a dit, madame, mes parents, ils nous ont dit comme ça, mettez-nous où vous voulez, mais jamais à tel endroit. Parce qu'elle fait maison de retraite aussi. Mettez-nous où vous voulez, mais pas dans cette maison de retraite. Voilà, qui fait partie de l'hôpital.
Et qui a participé donc à ce signalement.
Voilà.
Très bien, Monique.
Voilà.
Bah, écoutez, je vous
embrasse. Mais enfin, je suis contente parce que vraiment, quand j'ai reçu ça, j'ai sauté de joie.
Ah bah oui,
et j'ai dit à mon mari, tu vois, personne ne s'occupera de toi et tu ne seras jamais sous tutelle.
Et personne ne vous séparera surtout.
C'est ça, voilà.
Ça qui est important.
Voilà. Ouais. Voilà.
Bon.
C'est ça.
Très
merci
bien.
Beaucoup.
Je vous embrasse,
merci,
Monique.
Merci, monsieur Delacroix.
Merci à vous et bon courage à vous, Monique.
Merci bien.
Au revoir.
Merci.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Même si cette libre antenne est un peu courte ce soir, je vous rappelle qu'on se retrouvera bien évidemment dès demain soir à partir de 22h30, puisque le cours des choses reprend son rythme naturel. Pas de football demain, mais une libre antenne à partir de 22h30. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais nous avons juste le temps d'évoquer la vie d'Elisabeth, que nous accueillons maintenant au 3921. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Olivier, je suis contente d'être mise en relation avec vous ce soir, même si c'est pour un court instant.
Oui, c'est un court instant, mais on aura peut-être l'occasion de continuer demain, si vous le voulez bien, Elisabeth.
Oui, je veux bien, oui, parce que j'ai beaucoup de choses aussi à dire. Enfin, j'essaierai d'être succincte, mais je suis un petit peu comme la dame, désolée d'avoir beaucoup donné et en récompense très peu reçue. Voilà, j'ai 70 ans et je me retrouve alors que j'ai beaucoup travaillé moi aussi.
Ouais.
J'ai divorcé très jeune avec un enfant à charge qui a fait des études de médecine, qui s'est malheureusement suicidé il y a 10 ans.
Oui.
Et dans la continuité, j'ai dû me faire opérer. J'ai subi beaucoup d'opérations. Alors, pas de cancer, heureusement, pas cardiaque non plus. Mais des opérations orthopédiques. Et donc, je peux vous dire que c'est quand même très douloureux.
Vous avez été opérée en orthopédie de quoi, en fait, Elisabeth?
Et j'ai été opérée, j'ai des prothèses complètes des genoux.
Des genoux, oui.
Des deux genoux, prothèses des hanches et la colonne vertébrale avec des morceaux de ferraille, je pense.
Mm-hmm.
Et comment on appelle ça, des broches. Qui fait que la vie de tous les jours est douloureuse quand même.
Oui, vous arrivez à vous déplacer tout de même ou
Oui, à force de volonté et tout, je me déplace, je fais ce que j'ai à faire chez moi. Mais bien sûr, dès que je fais un petit peu plus, dès que je marche et surtout que je sors, alors là, j'ai un temps j'ai une ouverture de 2 heures.
Oui.
Il ne faut pas que je sorte plus parce que je rentre, j'ai l'impression de rentrer en étant pliée en deux tellement c'est douloureux.
Mmh. Est-ce que vous êtes entourée un peu tout de même?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
J'ai fait le vide avec ma famille.
Pourquoi cela?
Oh là, il y a eu tellement... En fait, le drame, c'était un drame, qui commence à l'enfance et qui m'a bousillé ma petite enfance, ma vie de petite fille, je dis toujours, d'adolescente, de jeune femme, de maman même.
Que s'est-il passé?
Eh bien, un père, comme on parle beaucoup en ce moment,
d'accord.
Et qui nous a fait extrêmement souffrir. Mais chose bizarre, bien que tout le monde, quand j'ai décidé à parler, tout le monde disait que tout le monde avait reçu la même chose, mes frères et mes sœurs. Mais quand je leur posais la question, je leur disais, mais qu'avez-vous eu exactement? Comme toi, c'est tout. Et puis, je n'ai pas cherché à aller plus loin, mais moi, je sais que cette histoire-là m'a fait divorcer. C'est pas moi qui voulais divorcer, c'est mon ex-époux. Ça a été douloureux quand tu m'as fait part de son choix, mais que j'ai compris quand même, parce que nous avions 30, 31 ans entre les deux, mais je ne lui donnais pas ce qu'il voulait. C'est normal, je l'ai compris.
Oui, oui.
Nous avons eu un enfant, bien sûr. C'était la prunelle de nos yeux, malgré tout. Et puis, lui, un jour, il décide de partir aussi. Alors, qu'a-t-il vécu? Je sais qu'il a eu des étouchements de son grand-père.
De votre père, donc?
Oui, oui, oui.
Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre père vous a abusé et qu'il a abusé aussi votre enfant.
Complètement, complètement détruite. Et quand j'ai quitté la maison à 26 décembre à 17h30, que ma mère me disait encore que j'étais une menteuse, puis que de toute façon, elle n'avait rien vu. Comme si il allait lui donner un rendez-vous. C'est risible. Hein.
C'est-à-dire, je ne comprends pas très bien. Comme si vous lui donniez un rendez-vous.
Comme s'il lui aurait donné un rendez-vous quand il faisait ce qu'il faisait.
Ah oui, d'accord. Elle vous traitait de menteuse.
Elle me traitait de menteuse. Jusqu'au bout, elle m'a traitée de menteuse. Et j'ai pensé à ça parce que dans la semaine, il y a eu une intervenante qui a eu ce même...
Oui, Sophie.
Je ne sais plus son prénom. Oui. Qui a eu ce même... Cette même parole. Et ça m'a fait remonter certaines choses. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. En fait, ils ont tous la même façon d'opérer. Évidemment, c'est pas. Nous ne sommes pas des gens du showbiz. Nous ne sommes pas des gens milliardaires. On ne parle pas de nous à la radio ni à la télé. Quoique maintenant, grâce aux émissions, tout ça s'ouvre. Et on est de plus en plus au courant de tout ce qui se passe. Évidemment, maintenant, je me sens moins seule par rapport à ça parce que je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça.
Oui, et puis vous savez, je pense que malheureusement, ce fléau-là dépasse largement les frontières socio-culturelles. Vous voyez, je pense qu'il y a des gens qui sont touchés.
Ah, tout à fait, ça y a longtemps, j'ai compris. Vous imaginez, j'ai 70 ans,
oui.
Je connais quand même un petit peu la vie malgré oui. tout, et je suis capable de me rendre compte de tout
Elisabeth,
ce qui a été démoli. Oui.
Elisabeth, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous reprenions cette discussion
oh, oui.
demain? Vous serez joignable demain?
Oui, avec d'accord. plaisir. Oui, eh bien, oui, écoutez, tout de suite à 10h30, si vous voulez.
À 22h30, on continue cette discussion,
d'accord.
je vous assure. Natacha oui. vous rappellera demain soir, et puis on se reparle, parce que je veux vraiment prendre le temps de mener cette discussion, d'accord?
Oui, je vous remercie beaucoup.
Je vous dis à demain, et je vous souhaite une bonne nuit.
Alors, à demain,
vous de même. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. Vous retrouverez Elisabeth demain soir au début de l'émission. Quant à moi, je vous souhaite une excellente nuit. Vous faites de beaux rêves. Soignez-vous, faites-vous du bien cette nuit, demain, toute la journée. Puis on se retrouve à 22h30. D'accord ? Salut. Europe 1, il est 1h du matin.